Bienvenue sur Radio France Internationale. Si vous nous rejoignez, il est 20h en temps universel, 22h à Paris, l'heure de votre journal en français facile.
Adrien Delgrange.
Avec Zéphirin Quadio, bonsoir.
Bonsoir Adrien, bonsoir à toutes et à tous.
Nous sommes ensemble 10 minutes pour un tour du monde de l'actualité avec au sommaire ce soir.
Le Covid dans le monde. La pandémie est responsable de la mort d'environ 15 millions de personnes selon l'Organisation Mondiale de la Santé.
Pour venir en aide à l'Ukraine, plus de 6 milliards d'euros ont été réunis aujourd'hui lors d'une conférence des donateurs.
Et puis un nouvel attentat en Israël. Au moins 3 morts dans une attaque à Elad.
La politique en France, dans l'attente de la décision des dirigeants du Parti Socialiste, pour savoir si ce soir le PS s'associe à la France Insoumise pour les élections législatives. Et puis un dernier mot de sport, football, 0-0 à la mi-temps entre Marseille et le Feyenoord de Rotterdam en demi-finale retour de la Ligue Europa Conférence. Voilà pour les titres, soyez les bienvenus.
Le journal
en français facile.
En français facile.
C'est un travail presque impossible, hein, Adrien. Comptez le nombre exact de morts liés à la pandémie de Covid.
L'OMS tente tout de même, Zéphirin, une nouvelle estimation du nombre de décès du coronavirus sur la planète. Bilan, environ 15 millions de morts entre 2020 et 2021, affirme l'agence. C'est quasiment...
C'est presque 3 fois plus que ce que les États ont rapporté. Alors pourquoi un écart si important?
À Genève, Jérémy Lanche.
Si l'OMS retient 14,9 millions de morts, ce n'est qu'une moyenne. La fourchette va de 13,3 à 16,6 millions de victimes. Cela comprend tous ceux qui sont morts directement à cause du virus, mais aussi tous les décès liés à la pandémie. Ça peut être les personnes souffrant de maladies chroniques et qui n'ont pas pu se faire soigner à cause des restrictions de mouvement. Ceux dont une opération chirurgicale a dû être reportée quand tous les médecins étaient mobilisés dans les unités de soins intensifs. 10 pays concentrent à eux seuls 70% de cette surmortalité, au premier rang desquels l'Inde, qui pourrait avoir 10 fois plus de victimes que ce que New Delhi a bien voulu rapporter. Le sujet est éminemment politique, mais l'OMS se défend de faire de l'arithmétique pour de l'arithmétique. Compter les morts du Covid et quand elles ont eu lieu, c'est également comprendre ce qui n'a pas marché dans la lutte contre la pandémie et mieux préparer la prochaine. Jérémy Lanche, Genève, RFI.
De l'argent pour l'Ukraine, un peu plus de 6 milliards d'euros de promesses de dons. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui le Premier ministre polonais lors d'une conférence de presse internationale des donateurs à Varsovie.
Une conférence en partenariat avec l'Union européenne et puis co-présidée par la Pologne et la Suède, un rendez-vous où il a été question notamment de la reconstruction de l'Ukraine. Sarah Bakaloglou est à Varsovie pour RFI.
Intervenant à distance, le président ukrainien a appelé les partenaires de son pays à parrainer les localités, les régions, les industries qui ont été détruites, qui ont souffert à cause de l'armée russe pour assurer leur reconstruction. Un thème également au cœur de l'intervention de Charles Michel, président du Conseil européen. « Nous vous aiderons à reconstruire votre pays, votre économie, vos maisons, écoles et hôpitaux », a-t-il assuré. Charles Michel a souligné le besoin de liquidité pour l'Ukraine pour que les médecins, infirmiers, professeurs puissent continuer d'être payés et pour que l'État ukrainien continue de fonctionner. Pendant cette conférence, de nombreux dirigeants étrangers se sont exprimés. Emmanuel Macron, le président français, a d'ailleurs annoncé que l'aide française allait être augmentée pour atteindre 2 milliards de dollars. En tout, ce sont plus de 6 milliards d'euros de promesses de dons qui ont été récoltées. Et le premier ministre ukrainien présent à Varsovie en a profité pour rappeler que l'Ukraine avait aussi besoin d'armes pour se défendre, d'une adhésion à l'Union européenne et de sanctions contre la Russie. Sarah Bakaloglou, Varsovie, RFI.
Aux États-Unis, le président américain Joe Biden choisit Karine Jean-Pierre comme porte-parole, première femme noire à ce poste. Karine Jean-Pierre est née à Fort-de-France il y a 44 ans.
Le journal en français facile.
22h05 à Paris, en Israël, des coups de feu. Au moins 3 personnes tuées ce soir lors d'une attaque à Elad, une ville du centre du pays. Une 4e personne victime de l'attaque se trouve dans un état critique. L'assaillant présumé n'a pas été arrêté. La police israélienne demande à la population ce soir de rester chez elle.
Et puis en Cisjordanie, ils peuvent être expulsés à tout moment.
Environ un millier de personnes qui vivent dans des villages palestiniens situés dans les collines à proximité d'Hébron sont concernées par cette expulsion possible, et ce, sur décision de la Cour suprême israélienne. Ces terres palestiniennes sont réservées à l'entraînement de l'armée israélienne.
Il s'agit là d'une des plus importantes décisions, hein, décision d'expulsion depuis l'occupation israélienne des territoires palestiniens. C'était en 1967.
Les précisions à Ramallah d'Alice Froussard.
Pour les habitants, des bergers ou des agriculteurs palestiniens, pour la plupart, c'est une zone rurale, pauvre, aride, de 3000 hectares avec des aires de paysages lunaires. Mais pour l'armée israélienne, cette étendue de terre a un autre nom, la zone de tir 918. Souvent, les soldats viennent s'entraîner, parcourent les champs en blindés et leurs hélicoptères volent tout près des maisons. Et la bataille judiciaire a duré 23 ans. Mais dans la nuit, la Cour suprême israélienne a rendu sa décision, donnant le feu vert à l'expulsion et au transfert forcé d'environ 1000 Palestiniens. D'après les conventions de Genève, il est pourtant illégal d'exproprier des terres occupées à des fins qui ne profitent pas aux personnes qui y vivent ou de transférer de force une population locale. Mais l'État hébreu affirme que les villageois ne sont pas des résidents permanents, n'ont aucun droit sur la terre. Pour le moment, le ministère de la Défense israélien n'a fait aucun commentaire. De son côté, le président du conseil de Massafaliata, Nidal Younes, parle d'une décision raciste prise par un juge qui vit dans une colonie détruisant en 5 minutes la vie de 12 villages après 20 ans de bataille. Et selon l'ONG israélienne Breaking the Silence, il s'agit d'une étape claire, je cite, dans l'annexion de facto des territoires palestiniens occupés pour cimenter un régime militaire indéfiniment. Alice Froussard, Ramallah, RFI.
Dans l'actualité politique française maintenant, le Parti socialiste soumet l'accord avec la France insoumise à son Conseil national, c'est l'équivalent de son Parlement.
Un accord, Zéphirin, pour les élections législatives prévues le mois prochain en France. Un vote plutôt délicat, car plusieurs grandes figures du Parti socialiste rejettent l'alliance avec la France insoumise. La décision finale devrait être connue d'une heure à l'autre. Et puis, nous avons appris aujourd'hui que le parti présidentiel, La République en marche, change de nom et s'appelle désormais Renaissance, un parti populaire qui a vocation à être ouvert, selon son délégué général Stanislas Guérini.
Enfin, toujours en France, Adrien, c'est une série télé à grand succès qui disparaît.
Le groupe France Télévisions annonce l'arrêt de la diffusion de son feuilleton star « Plus belle la vie ». Plus belle la vie tournée à Marseille. Les audiences étaient trop faibles, Isabelle Chenu.
Plus belle la vie au temps de sa splendeur, c'était chaque soir 5 à 7 millions de téléspectateurs réunis devant leur petit écran. Un programme phare de France Télévisions qui avait réussi à relancer le genre du feuilleton populaire en 2004. En quelques années, la série tournée à Marseille était devenue culte et les audiences grimpaient au fil des aventures de personnages développées sur plus de 4500 épisodes. Des visites touristiques étaient même organisées sur les lieux de tournage pour répondre à l'engouement des club de fans qui s'était créé dans tout le pays. Aujourd'hui, les audiences sont divisées par deux et l'épilogue de la série française quotidienne la plus longue de l'histoire est annoncé pour le mois de novembre. Une des clés du succès est d'avoir su refléter les évolutions et la diversité de la société française. Plus belle la vie restera, par exemple, comme la première fiction à avoir montré un simple baiser entre deux hommes à la télévision française. L'audience était familiale, transgénérationnelle, les intrigues ancrées dans la proximité. La série faisait également travailler 600 intermittents du spectacle chaque année. La direction de France Télévisions s'est engagée à compenser cet arrêt par le tournage de nouvelles mini-séries à Marseille.
Isabelle Chenu, et puis toujours dans l'actualité française, ce braquage en plein Paris. 4 malfaiteurs casqués, masqués ont dévalisé une boutique de luxe de la marque Chanel. Ça s'est passé rue de la Paix. Ils ont réussi à prendre la fuite sur une moto. On referme ce journal en parlant de football. Toujours 0-0 entre l'OM et le Feyenoord de Rotterdam en demi-finale retour de la Ligue Europa Conférence. C'est l'heure de la mi-temps en ce moment. Sachez qu'à la 31e minute, le meneur de jeu de l'OM, Dimitri Payet, a dû sortir sur blessure et nous reparlerons de ce match dans notre prochaine édition. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir écouté.